Écoutez Radio Orient, il est 17h, le journal Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition, la crise migratoire de Ceuta. La présidente de la Commission européenne veut une réponse commune pour renforcer les frontières. Une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE se tient demain à la demande de Madrid. Donald Trump annonce une reprise des discussions avec l'Iran. Téhéran dément et affirme poursuivre des négociations avec Oman pour sécuriser le passage dans le détroit d'Ormuz. Et puis sur le front des incendies, 60 000 personnes ont été évacuées dans l'état de Washington aux États-Unis. En Grèce, les incendies ont repris près d'Athènes malgré l'accalmie du vent. En France, la situation reste sous haute surveillance. Bonjour. À la veille d'une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle à une réponse européenne commune face à l'afflux inédit de dizaines de milliers de migrants en provenance du Maroc vers l'enclave espagnole de Ceuta. Sur le terrain, le bilan humain continue de s'alourdir. Selon Madrid, au moins 72 personnes ont perdu la vie en tentant de franchir la frontière, tandis que Rabat fait état de 11 morts. On fait le point avec vous, Nawal El Amouchi.
Alors oui, Nadia, un point sur la situation. Selon Madrid, la quasi-totalité des 60 000 personnes qui ont franchi illégalement la frontière, hein, surtout des jeunes Marocains, ont depuis été renvoyés au Maroc, un afflux décrit par le gouvernement autonome de Ceuta comme le pire jamais vu dans l'enclave et dont le bilan humain ne cesse de s'aggraver. Vous l'avez dit, les autorités de Ceuta font état de 72 morts. Beaucoup se sont noyés. Le ministère marocain de l'Intérieur s'est exprimé plus tard et a finalement donné hier soir un premier bilan, un bilan différent qui fait état de 11 personnes décédées. L'association marocaine des droits humains parle, elle, de 130 victimes et de dizaines de disparus. Elle a appelé samedi à l'ouverture d'une enquête indépendante sur les causes de cet afflux inédit de migrants entre la ville marocaine de Fnidderk et l'enclave espagnole. Pour Rabat, cette crise migratoire est due à l'exploitation malveillante des réseaux sociaux et de la diffusion d'informations trompeuses et d'interprétations erronées. Je cite, le ministère marocain a annoncé 40 000 tentatives de franchissement irrégulier de la frontière vers Ceuta et a ajouté qu'environ 1 000 personnes ont cherché à rejoindre l'autre enclave espagnole de Melilla, située à environ 400 km plus à l'est. Toutes les personnes arrivées à Melilla ont été renvoyées immédiatement sur le territoire marocain et certains de ceux qui ont franchi la frontière de l'enclave ont déclaré qu'ils avaient entendu dire qu'elle était ouverte, une rumeur rapidement amplifiée sur les réseaux sociaux. L'Espagne a mis en cause les mafias de trafiquants d'êtres humains. L'arrivée de ces migrants a déclenché une crise diplomatique entre l'Espagne et ses partenaires européens, les plus à droite et les plus critiques de sa politique migratoire. Vous l'avez dit, Nadia, les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne discuteront demain en visioconférence des événements de Ceuta. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé aujourd'hui à trouver une réponse européenne commune.
Merci Nawal pour ces précisions. Le parti anti-immigration réforme UK de Nigel Farage propose de déployer la Royal Navy dans la Manche pour intercepter les embarcations de migrants et les reconduire vers les côtes françaises s'il arrive au pouvoir. Baptisé Opération Forteresse, ce projet est vivement critiqué par le gouvernement travailliste et les conservateurs qui le jugent irréaliste. Au Proche-Orient, maintenant, Israël a fait part aux États-Unis de ses réserves sur le plan présenté par Donald Trump concernant le désarmement du Hamas. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu estime que le mouvement palestinien s'est réarmé et réclame un désarmement complet, vérifiable et irréversible avant tout retrait de ses forces de Gaza où les frappes israéliennes se poursuivent. Hier, au moins 13 personnes ont été tuées dans de nouvelles attaques sur la bande de Gaza selon la défense civile du territoire palestinien. Les pourparlers entre le Liban et Israël reprennent mardi à Rome sous médiation américaine. Objectif faire avancer la mise en œuvre de l'accord cadre conclu en juin. Les discussions porteront notamment sur l'extension des zones pilotes confiées à l'armée libanaise, le règlement des différents frontaliers et les conditions d'un accord global de paix et de sécurité. Cette reprise des négociations intervient le jour même du 6e anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth Beyrouth. À cette occasion, le président libanais a rendu hommage aux victimes. Joseph Aoun appelle la justice à publier enfin l'acte d'accusation dans ce dossier. Il estime que cette étape est devenue indispensable pour rétablir ou établir les responsabilités et rendre justice aux victimes de la catastrophe du 4 août 2020 qui avait fait plus de 220 morts et 6500 blessés. Le président du Kurdistan irakien est en visite à Damas pour relancer les discussions sur l'intégration des institutions et des forces kurdes syriennes au sein de l'État. Cette première visite depuis la chute de Bachar al-Assad intervient alors que la mise en œuvre de l'accord conclu en janvier entre les autorités syriennes et les Kurdes reste au point mort. Je vous le disais en titre, les États-Unis et l'Iran se contredisent sur l'état de leur discussion alors que Donald Trump a annoncé la reprise de négociations ce lundi. Téhéran dément catégoriquement. La République islamique affirme qu'aucun échange n'est en cours avec Washington et précise négocier uniquement avec Oman sur le dossier du détroit d'Ormuz. Les détails avec vous, Nawal El-Amouchi.
Et oui, Nadia, à vrai dire, hein, la situation reste assez floue et on n'y comprend plus grand-chose. Car côté iranien, le démenti est sans ambiguïté. Le ministère des Affaires étrangères affirme qu'aucune négociation n'est actuellement en cours avec les États-Unis. Téhéran assure discuter uniquement avec Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d'Ormuz, un point stratégique majeur pour le commerce mondial des hydrocarbures. Cette déclaration, elle contredit donc directement celle de Donald Trump. Le président américain a annoncé hier soir de son côté la reprise des discussions avec l'Iran dès aujourd'hui, après avoir renoncé à de nouveaux bombardements contre l'Iran. C'est bien le détroit d'Ormuz qui est au cœur des tensions depuis la reprise des affrontements début juillet. L'Iran contrôle étroitement la circulation maritime et n'autorise qu'un seul itinéraire le long de ses côtes. Téhéran affirme être proche d'un compromis avec Oman sur une nouvelle route maritime acceptable pour les deux parties. Et cette perspective, elle a entraîné un recul des cours du pétrole. Le Brent a perdu près de 5% à la réouverture des marchés. Donald Trump estime qu'un accord sur Hormuz pourrait ouvrir la voie à un compromis plus large sur le programme nucléaire iranien. Mais le démenti de Téhéran montre bien les profondes divergences qui persistent entre ces deux pays. Et cela, plus de 5 mois après le début du conflit.
Merci Nawal pour ces précisions. En Russie, une frappe ukrainienne a fait au moins 10 morts, dont 3 enfants et une quarantaine de blessés dans la région de Krasnodar, selon les autorités russes qui accusent Kiev d'avoir visé des civils dans le centre de l'Ukraine. Cette fois, une attaque russe a fait 3 morts près de Kryvyi Rih. Dans le nord-ouest des États-Unis, les incendies continuent de ravager la région de Spokane. Dans l'état de Washington, environ 60 000 personnes ont été évacuées. Des centaines de bâtiments ont été détruits et aucun des 3 principaux foyers n'est encore maîtrisé. L'état d'urgence a été décrété. En Grèce, maintenant, les incendies près d'Athènes ont connu une reprise malgré l'accalmie du vent. Quelques 450 pompiers épaulés par 16 bombardiers d'eau et 12 hélicoptères tentent de contenir les flammes qui menacent désormais une zone industrielle à l'ouest de la capitale. Et puis en France, la situation reste sous haute surveillance. Sur le front des incendies. En Gironde, le méga-feu qui a ravagé plus de 42 000 hectares est désormais fixé, même si les opérations de noyage se poursuivent pour prévenir toute reprise. Dans le Var, en revanche, les 1 500 pompiers restent mobilisés face à un incendie toujours contenu mais non fixé, alors que la vigilance reste maximale en raison de la chaleur et du vent. Dans ce contexte, la Gironde retrouve peu à peu un semblant de normalité. Et bonne nouvelle, les habitants du Porge et de l'Aige-Cap-Ferré sont autorisés à regagner leur domicile à partir d'aujourd'hui. C'est félicité la préfète de la Gironde, Sophie Broca. On l'écoute.
C'est un jour plutôt heureux puisque les habitants du Porge et de l'Aige vont pouvoir revenir, vous le savez, à partir de 14h. Les campings restent fermés et ce soir à 19h, vous le savez aussi, la presqu'île sera réouverte et la navigation sur le bassin sera de nouveau autorisée par le préfet maritime. On est venu ici pour installer, pour ce qui concerne l'équipe de l'État, on est venu pour installer un France Service Victime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, pendant plusieurs jours, vont être à la disposition des habitants un ensemble de compétences et de services pour répondre de manière personnalisée aux questions de chacun. Alors la Croix-Rouge sera là et est là pour accueillir déjà les personnes. C'est un grand traumatisme que les habitants ont vécu et il faut les accompagner, les écouter. Ce sera le rôle de la Croix-Rouge. Et il y aura des psychologues qui sont aussi en capacité d'écouter, de soulager le traumatisme et la douleur ressentie et la peur ressentie. Et puis, côté État, il y aura France Travail, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont en difficulté de ce point de vue. Il y aura la CAF, pour les aides que la CAF peut apporter. Il y aura la Direction de l'Emploi et du Travail pour les entreprises, pour accorder le chômage partiel et faire en sorte que les salaires soient aidés par l'État ou pris en charge. Il n'y aura pas de reste à charge pour les entreprises qui ont été évacuées ici. Il y aura les spécialistes de l'urbanisme pourront répondre aux questions sur les droits à construire.
Voilà, c'était la préfète de la Gironde, Sophie Broca. En France, toujours, la crise du logement continue de fragiliser les plus précaires dans un contexte où le taux de pauvreté atteint un niveau inédit. Pour la Fédération des acteurs de la solidarité, ces questions de cohésion sociale et de lutte contre la précarité doivent s'imposer au cœur du débat public et de la prochaine campagne présidentielle. Pour Emmanuel Bougraf, directeur des politiques publiques et du juridique de la Fédération des acteurs de la solidarité, ces questions ne peuvent plus être relégué au second plan. On l'écoute.
On organise notre congrès fédéral le 21 et 22 janvier à Marseille. Et donc à cette occasion-là, on va nous entretenir avec les candidats et candidates à la présidentielle pour mettre les enjeux de solidarité au sens large au cœur de la présidentielle. On sait que malheureusement, ce n'est pas forcément le sujet qui est régulièrement mis en avant, mais pour autant, il est majeur. Surtout dans un moment où, comme le montre l'INSEE, le taux de pauvreté n'a jamais été aussi élevé. Et donc on a vraiment besoin, dans ce pays, de reparler sereinement de cohésion sociale et de solidarité.
La question du logement doit être un sujet phare de cette campagne. Qu'est-ce que vous demandez aux différents candidats ?
Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment une programmation pluriannuelle de la rue au logement, avec une production plus ambitieuse de logements sociaux et très sociaux. Encore une fois, on paye là le défaut de production de logements sociaux depuis 2017 et donc il faut vraiment un choc assez important, très important même, de production de logements très sociaux. Ce qu'on demande également, c'est l'encadrement des loyers dans le parc privé. On voit que ça fonctionne et on voit que ça permet au moins de maîtriser un peu ces envolées des prix. C'est vraiment des actions fortes pour permettre finalement à tout un chacun de se loger. Et on voit que malheureusement, c'est de plus en plus compliqué pour toutes les personnes à se loger et de fait pour les personnes les plus en précarité.
Emmanuel Bougrat, directeur des politiques publiques et du juridique de la Fédération des acteurs de la solidarité. Il est l'invité de Grand Angle, présenté par Thibaut Richard. Et c'est juste après le Flash Info de 18h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.